Pour lui, exister, c'était résister, et d'abord face au système technicien.
Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ?
Prénom ?
Jacques.
Nom ?
Ellul.
Sa date de naissance ?
6 janvier 1912, à Bordeaux. De parents relevant chacun de nationalité bigarrée.
Un mariage ?
Avec Yvette Lensfeld. D'origine néerlandaise, elle détient un passeport britannique. Toujours la diversité.
Ses études ?
Son père ne le laisse pas devenir marin et l'amarre au droit. Il va enseigner à la fac de droit de Bordeaux de 44 à 80. C'est un professeur très apprécié des étudiants, mais dit-il, ma carrière universitaire a été lamentable du point de vue de l'avancement. Évidemment, il ne traite que de ce que ses confrères n'attendent pas. Le marxisme, le système technicien, la propagande.
Et la religion ?
Ne prononcez pas ce mot. Converti au protestantisme, théologien et exégète, titulaire d'une délégation de pasteurs de l'Église réformée, Ellul ne cesse de dire que la religion, c'est la trahison de l'engagement du Christ.
Et son propre engagement ?
Libertaire. Il prêche mieux que la non-violence, la non-puissance. Résistant, juste entre les nations, il renonce à toute fonction d'autorité après 45.
Ses livres ?
Une soixantaine, publiés, ce qui n'est pas banal, à la fois par une maison de droite, la Table Ronde, et une maison de gauche, la Découverte. Parmi eux, le système technicien, anarchie et christianisme, agir localement et penser globalement.
Et sa mort ?
Le 18 mai 1994.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Eh bien, s'il est un intellectuel actif, c'est le mot qu'il utilisait, qui, un quart de siècle après sa mort, peut parler à notre époque, c'est bien lui. Il a vu venir le règne total de la technique. Regardons-nous travailler. Savons-nous comment notre ordinateur fonctionne ? Regardons-nous rouler. Nous savions démonter une deux chevaux. Aujourd'hui, notre voiture embarque de l'électronique énigmatique. Regardons-nous marcher. Les big data consignent le nombre de pas que nous avons faits et nous recommandent de ne plus en faire de côté. Nous sommes devenus les objets du système technicien. Jacques Ellul, dans ce contexte, propose de rouvrir l'horizon de la liberté, ce qui suppose le choix d'une vie peut-être moins confortable, parce que la liberté passe aussi par une certaine frugalité. Il a dit cela sur tous les tons, celui du professeur, celui du prédicateur, celui de l'auteur, mais toujours sans cérémonie. Son disciple, Jean-François Herouard, mais enfin, faut-il dire disciple, il ne voulait pas de disciple, cela l'aurait obligé à leur plaire.
Pour parler d'Ellul, je l'ai rencontré, vu en action. D'abord, jeune étudiant à Bordeaux, venant de mon trou de cognac, j'ai été impressionné par le professeur d'université. À l'époque, les professeurs de droit enseignaient encore avec la toge et l'hermine. Et Ellul, qui est un homme petit, plus petit que moi, très petit, vêtu de cette toge noire solennelle avec l'hermine montant à la chaire de la faculté de droit précédée par deux huissiers, c'était très impressionnant. Mais très vite, j'ai appris à le connaître autrement. Donc, deuxième image, en short, capable de concocter un cocktail et le déguster, avec un humour féroce. Et je me rappelle, entre autres, d'une scène vraiment bidonnante où Ellul mimait Groucho Marx dans La soupe au canard, Doc Soap, dans le rôle d'un dictateur fou. Et Ellul sautant sur la table et se mettant à réclamer le pouvoir, c'était vraiment très drôle. Et puis, dernière image, celle-là, très très prégnante, grave, impressionnante. J'ai vu Ellul prêcher en chaire au temple protestant protestants, sur les dernières paroles de Jésus en croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'était un spectacle bouleversant, parce que on entendait là à la fois une conviction et un doute qui avait une grandeur spirituelle que je ne suis pas prêt d'oublier. Et Lull, c'est avant tout un grand intellectuel libre, inclassable. C'est un intellectuel qui fait son métier d'intellectuel avec une très grande rigueur.
Et qui cherche à faire la traque des lieux communs, avec le souci de ceux qui forment, disait-il, la communauté des abandonnés. Ses origines familiales ne sont pas pour rien dans ce souci. Sa famille, en effet, était extrêmement composite, et si elle a été aristocratique, elle est surtout déclassée. Rien de tranquillement bourgeois chez lui. Alors, prenons de l'élan. Sa mère est née d'un mariage entre un Portugais et une Française. Son père, c'est plus compliqué encore, une mère serbe, un père italien, tous deux sujets de l'Empire austro-hongrois, mais lui, il est un peu maltais, ce qu'il fait aussi sujet de la couronne d'Angleterre. Ce père, Joseph, met au-dessus de tout l'honneur, ne jamais trahir ses amis, être ouvert aux pauvres et rigoureux face aux puissants. Il travaille, quand son tempérament le permet, parce qu'il est souvent chômeur, chez des négociants du port, le port qu'il laisse Jacques enfant fréquenter librement.
J'errais sur les quais à 7 ans, 8 ans, donc aux environs de 1920. Et c'est le monde des marins, des dockers, des nègres, des prostituées.
Alors au fond, vous avez rencontré ici, c'est curieux, à la fois la liberté...
Et puis l'esclavage. Pour moi, personnellement, c'était le lieu de la liberté. Et puis je me trouvais au milieu d'un peuple qui est épouvantablement esclave et... Bien, des noix de cacao, il y en a encore. C'est
cacao.
Des cacaos. Ça, c'était aussi une des grandes joies de mon enfance, de rafler des cacahuètes et des cacaos quand ils arrivaient.
C'est fini, vous ne le faites plus?
Bon, disons que je n'ai plus le temps de m'amuser à ça, malheureusement.
Et puis, ramasse-t-on encore des fèves de cacao sur les quais, c'était avant qu'elles soient livrées en conteneurs et avant que les quais ne soient éloignés des villes pour recevoir les conteneurs, la technique, toujours. Et Lull cherchera à savoir comment la technique modèle l'humanité, ceci au prisme de son regard sur la liberté, qui est aiguisé par son appartenance, est-ce que c'est le mot appartenance, au protestantisme. Appartenance à l'Église, est-ce que c'est le mot qui convient pour le définir, Église. Chez les réformés, il s'affirme farouchement minoritaire. Il aurait tant voulu pouvoir avancer sans armes ni armure.
Sans armes ni armure, c'est bien une de mes formules favorites, et c'est bien ça. Si l'Église avait joué son rôle, elle aurait été effectivement en face des pouvoirs politiques, ce contre-pouvoir, disant non quand il y avait lieu de dire non, et disant il faut quand il y avait lieu de dire il faut, et apprenant au pouvoir ce qu'il y a à faire, alors que l'Église s'est laissée absorber par le pouvoir, elle est devenue un contre-fort, elle est devenue, après tout c'était très agréable d'être reconnue.
C'est une sorte de corruption du christianisme par la puissance.
Oui, et puis christianisme transformé en religion, transformé en organisation de la société, en appui. Et au fond, c'est extraordinaire de penser à cette société qui est issue du christianisme et où il n'y a plus rien de chrétien. C'est vraiment un des défis de l'histoire, ça. Quand même, se trouver en présence d'un message qui était un message d'amour et de fraternité et un message de non-imposition de la vérité, un message où l'on s'offre soi-même comme gage de ce que l'on dit et avoir transformé cela en un pouvoir social, en un pouvoir organisé, pour moi, je m'en suis jamais consolé.
Il a toujours aimé les petits groupes dont la voix se fait entendre de proche en proche. Dans les années 30, il œuvrait avec son compère Bernard Charbonneau dans le sillage de la revue Esprit ou bien dans de petits cercles non conformistes. Charbonneau qui fut un des premiers à dire Dans un monde fini, on ne pourra repousser indéfiniment les limites. Tous deux étaient pacifistes. Il arrivait que Jacques Ellul anime des camps anti-scouts, où on baissait le drapeau au lieu de le hisser. Mais vint quand même le temps de la nécessité. Alors il était partisan de la non-violence, il disait plutôt la non-puissance, mais il fallait, à certains moments, choisir. Notre premier interlocuteur, c'est Frédéric Rognon, il est professeur de théologie protestante à l'université de Strasbourg. Il vient de publier un livre sur le duo Charbonneau-Ellul.
Alors il a effectivement été le témoin d'un XXe siècle qui est particulièrement tragique. Hein. Il a traversé tout le XXe siècle, mais il a aussi un regard sur toute l'histoire et il voit bien que l'histoire humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Et la question de la violence, la question du meurtre, la question de la guerre, il les a travaillées, et notamment à la lumière de sa foi chrétienne, à la lumière de la Bible, en considérant que la violence n'est jamais légitime, n'est jamais justifiée, et surtout pas au nom de valeurs chrétiennes ou au nom d'arguments théologiques. Et que parfois la violence devient nécessaire quand on l'a rendue nécessaire, mais c'est pas parce qu'elle est nécessaire qu'elle est juste. On a toujours tendance à faire de nécessité vertu, alors que la nécessité n'est pas forcément vertueuse. Et donc, il considère, à la lumière de sa lecture des textes bibliques, que la violence n'est jamais juste, n'est jamais légitime, même si elle a été rendue parfois par nous-mêmes nécessaire.
Par exemple, pendant la guerre d'Espagne, où Ellul prend le parti des Républicains, puis c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ellul est révoqué par le régime de Pétain. Il se retire dans un village de l'Entre-deux-Mers, où il devient agriculteur. Sa première récolte de pommes de terre lui offre autant de plaisir que sa réussite au concours de l'agrégation de droit qu'on lui permet de passer, mais sans lui donner de poste. Et sa maison devient un lieu providentiel. Patrick Chastenet, notre second interlocuteur, un fidèle d'Ellul qu'il visitait sans cesse, il vient de publier un nouveau livre consacré à Ellul, une introduction à sa pensée.
À la Libération, il voulait faire en sorte que l'épuration à Bordeaux... il voulait éviter ce côté à la fois revanchard, les femmes tendues, pour collaboration horizontale, enfin... C'était sa grande préoccupation. Je crois qu'il insistait plus là-dessus, sur son rôle de modérateur dans ce qui pouvait être une fureur d'autant plus vengeresse que nous avions à Bordeaux le maire le plus collaborationniste de France. En ce qui le concerne, il n'a jamais pris les armes. Il était dans un réseau de faux papiers. Il l'a caché, plusieurs juifs. Alors là, tout au long de l'occupation... ce qui lui a d'ailleurs valu d'être élevé post-mortem au rang de juste parmi les nations. Donc il a caché civil et militaire, et il a servi de boîte aux lettres.
Il vous a parlé du procès Papon
Alors, je crois que... ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment suivi à titre personnel. Je m'étais vraiment mobilisé sur cette affaire pour toute une série de raisons. Mais curieusement, je pense que c'est quelque chose... je sais plus du tout, mais je suis à peu près sûr de pas avoir abordé ça. Je pense que non.
À la Libération, il est devenu conseiller municipal de Bordeaux, en même temps que professeur à l'université. Et il est approché pour prendre des postes importants. Dans l'esprit de cette époque, qu'on lisait inscrit en lettres de feu à la une du journal Combat, de la résistance à la révolution. Mais son épouse, Yvette, met le holà.
Elle le protégeait en le mettant en garde lorsqu'il pouvait être tenté par certaines séductions de puissance.
Quand il est tenté d'être préfet, quand il est tenté d'être doyen de la faculté, quand on lui propose la Légion d'honneur, c'est sa femme qui dit attention.
Voilà, tout à fait. C'est toujours elle qui le rappelle en quelque sorte à la fidélité à ses propres convictions. Hein. Elle est un garde-fou en quelque sorte pour les tentations qui pourraient être les siennes. Et elle a à chaque fois réussi à lui faire entendre sa propre voix, la voix de sa propre fidélité en quelque sorte.
Donc là, parfaitement, calviniste, Yvette aide Jacques à rester un libertaire conséquent. et à remonter sa pente.
J'ai un tempérament autoritaire et je me méfie de toutes les autorités que l'on peut me remettre parce que j'ai peur de moi-même, j'ai peur d'en abuser. Et ensuite, parce que je n'ai jamais voulu exercer une fonction honorifique.
On peut appeler ça la pudeur des parpaillots.
Oui, il y a la pudeur des parpaillots, il y a aussi mon tempérament, mon orgueil. Par exemple, je n'ai pas voulu de décoration parce que je me suffis et j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Ça, je sais que c'est de l'orgueil, je le reconnais, et puis c'est comme ça. Et puis, il y a aussi ce que je disais, j'y insiste, ma défiance à l'égard de moi-même.
Tout de même en 92, mais c'était après la mort d'Yvette, à l'hôtel de ville de Bordeaux, la remise du grand prix littéraire de la ville, au temps de Jacques Chaban-Delmas.
Je vous remets ce qui matérialise ce prix, mais qui est peu de choses à côté de ce qui l'idéalise. Nous allons boire à sa santé le verre de l'amitié bordelaise. En avant. Où est-ce que ça se passe? Ici, circulez.
Jacques Ellul le disait dans une forme beaucoup moins enveloppée.
Vous avez reçu le prix littéraire de la ville de Bordeaux.
Oui.
C'était un grand honneur. Les honneurs, Jacques Ellul, ça vous plaît pas trop?
Ça ne me plaît pas du tout, et je suis bien tranquille. Si ma femme avait encore été là, elle m'aurait obligé à le refuser. Comme elle était encore plus stricte que moi, elle n'était pas calviniste d'origine, mais elle était devenue d'un esprit rigoureux, c'est-à-dire un chrétien n'a pas à recevoir de récompense du monde. Voilà.
Inter. Intelligence, service.
En principe, professeur de droit, Jacques Ellul n'a-t-il pas tendance à enseigner autre chose, Monsieur Lebrun?
Ah, le droit. C'est difficile d'établir la position d'Ellul face à la discipline qu'il enseigne. Il a même produit plusieurs volumes d'histoire des institutions qui ont longtemps servi de manuel. Mais il affirmait que l'État interventionniste était détestable. La Table Ronde publie bientôt son cours inédit sur la philosophie du droit. Ce serait le droit qui donnerait ses caractères aux civilisations. Mais Ellul ajoutait, il est si facile de le tordre. Les textes d'Ellul doivent être lus les uns en regard des autres, d'une façon dialectique. Et pareillement, ses cours à l'université, qu'il voulait diagonaux. Ainsi, celui sur Marx n'était pas marxiste, mais marxien. Il se demandait sur quel sujet essentiel se fixerait aujourd'hui l'esprit du grand Karl s'il vivait encore. Eh ben, ce ne serait plus l'aliénation économique, mais la sacralisation de la technique. Patrick Chastenet.
Ce monde, il est fait de quoi? Ben, c'est un monde, finalement, qui est un monde de moyens. C'est un monde qui... est régi par quoi? Par la nécessité. Il est régi par quoi? Par la technique et la technique moderne. Il n'est plus du tout du ressort du simple outil, hein, qui est entre les mains de son utilisateur, du couteau. Alors qu'on dit toujours, ah ben oui, mais ça dépend, la technique, si entre de bonnes mains ou de mauvaises mains, oui, c'est comme le couteau, on peut découper une tarte avec, on peut aussi le planter dans le dos du voisin. Eh bien non, cette vision-là, Elle fait l'impasse sur justement le caractère systémique de cette technique moderne. Et elle présuppose une espèce de nature humaine qui serait donc un homme naturellement bon, qui choisirait son milieu, justement, qui serait comme par magie un milieu déjà libéré de la technique. L'homme croit se servir de la technique, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire de cette technique moderne, et en réalité, c'est lui qui la sert, c'est-à-dire qu'il se met à son service. Ou pour le dire avec les mots de Bernanos, l'homme est devenu l'instrument de ses instruments. Ça veut dire que il est pris, cet homme, dans un nouveau milieu qui est venu se superposer au milieu naturel. Ce milieu technicien qui, peu à peu, recouvre l'ensemble de tout notre milieu. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, qui est à la fois une société technicisée, dans le sens où tous les domaines sont petit à petit envahis par la technique, même les plus, les plus improbables de ce point de vue-là, où, la mort, l'amour, tout peut devenir aussi une question de technique. Qui pouvait penser un jour que les relations amoureuses se passeraient de façon aussi médiatisée, via des écrans, via des réseaux, via des... Bon. Et... une société qui est de plus en plus technicisée, aussi l'idée qu'il y a une logique qu'il avait appelée la loi de Gabor, qui fait que tout ce qui est techniquement possible doit être fait, indépendamment de toute autre considération. De la même façon que pour lui, la technique, c'est pas la machine. La machine, c'est la robotisation, le processus de construction de nos automobiles, de fabrication de nos automobiles. Ça, c'est le côté brillant, inquiétant de la machine. La technique, on ne la voit pas, puisqu'on baigne littéralement dedans. On n'y fait plus attention. Et justement, il suffit de se focaliser sur ce processus pour voir que, d'une part, il n'y a jamais de retour en arrière. Nous sommes les uns les autres, nous contemporains, bien des serviteurs de cette technique. Et ce faisant, justement, l'homme n'est plus en mesure d'exercer sa liberté.
Il venait toujours un moment où la femme d'Ellul lui disait « Bon, maintenant il faut sortir des propos un peu abstraits, il faut les incarner dans des situations présentes, il faut prendre des exemples. » Alors en voici un, et quel exemple ?
L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération ? Sinon, absolument pas. Une seconde réfléchie, qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable.
Alors, avec l'auto, on a exemplifié. Actualisons maintenant. Nous sommes aujourd'hui, et toujours dans la région qui est chère à Ellul, Bordeaux. Vous savez que la plupart des travaux sur les mobilités nouvelles recommandent le contournement ferroviaire des métropoles pour le fret et un réseau de trains de banlieue digne de ce nom pour les voyageurs. Et puis le réinvestissement dans l'entretien des petites lignes. Eh bien, aujourd'hui, en 2021, le branle vient de nouveau d'être donné pour la création d'une ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse jusqu'aux Pyrénées, avec un engagement de l'État et des deux conseils régionaux concernés, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Oui, les LGV permettront à toutes et à tous de gagner du temps, pour la famille, les amis, les projets personnels ou professionnels. Avec la LGV Toulouse-Bordeaux, on gagnera Paris en 3h10. et avec la LGV Montpellier-Béziers-Perpignan, on pourra se rendre à Barcelone en 2h20. Gagner du temps grâce au train, c'est positif pour le rayonnement économique, l'emploi et le tourisme, dans un territoire qui accueille 50 000 nouveaux habitants par an. En plus, les LGV vont favoriser nos déplacements du quotidien en faisant de la place pour des TER supplémentaires. On a tous à gagner à favoriser le train car il est moins polluant que l'avion et plus sûr que la voiture.
Jacques Ellul m'avait raconté comment un de ses amis lui avait dit « Mais tu te rends compte, j'ai pris le Bordeaux-Paris ou le Paris-Bordeaux et tu vois maintenant avec le train, c'était avant le TGV, j'ai gagné presque une heure. » Et son interlocuteur attendait des félicitations ou pour le moins de l'étonnement. Et lui l'a regardé, c'est lui qui me raconte, et lui a dit « Mais qu'as-tu fait ?» Alors je ne sais pas si le tutoyait le voyait, mais « Qu'as-tu fait de cette heure ?» Il m'a dit « Son interlocuteur a été incapable de répondre. Ben, » ça c'est typiquement, je crois, la réflexion que je pourrais avoir, moi, si on me posait la question, sur cette ligne. Je pense que c'est exactement le type de projet coûteux, dangereux, nuisible à tous égards pour les propriétés vitivinicoles, pour la biodiversité. Je crois que s'il y a vraiment une mesure qu'il faudrait combattre sous toutes ses formes, c'est celle-là. Il n'y a pas de décision, me semble-t-il, pour moi, la plus aberrante. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que là, quand on met même en deux colonnes ce qu'on peut gagner, c'est-à-dire bon, peut-être globalement 20 minutes sur le parcours, bon, et puis ce que ça coûte dans tous les sens du terme, bon, et au-delà de ça, même d'ailleurs, la course au toujours plus vite, toujours plus, et la 3G, la 4G, la 5G, etc. Et la 6, elle est déjà. Oui, la 6. Bon.
Alors 6G, LGV, vous avez entendu tout à l'heure une petite leçon de propagande sur ce sujet. Le cours d'Ellul sur le système technicien se doublait d'un autre sur la propagande. Le régime démocratique a besoin d'informations, disait-il, mais celle-ci devient vite propagande. Et bien avant Bourdieu, il exprimait ses doutes sur notre capacité à organiser une opinion publique. Nous sommes en réalité soumis à la propagande. Alors encore un exemple, toujours présent. Les centrales nucléaires, nous sommes au moment de leur première multiplication.
EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques.
Chez Ellul, il y a toujours cette idée que, au nom de l'intérêt général, l'intérêt général étant quand même évidemment ramené, réduit à l'intérêt du gouvernement en place, eh bien, procède à des choix qui sont des choix non démocratiques, qui sont des choix qui nous engagent sur, je dirais, nos styles de vie. Et pour le coup, le nucléaire, où c'est vraiment un thème sur lequel il s'était vraiment mobilisé, c'est aussi le pari stupide. C'est aussi l'idée que, alors là aussi, à la fois sur l'aspect civil et militaire, sur l'aspect civil, il se dit c'est encore de se lancer dans une logique de surenchère, c'est-à-dire que c'est toujours pour plus de consommation d'énergie. Et sur le plan militaire, c'est de se dire bon, c'est finalement l'équilibre de la terreur, et c'est encore une logique de puissance. Et pour lui, c'est pas sur ce chemin qu'on se doit d'aller dans tous les domaines.
Parce que dans le domaine du nucléaire, s'il y a quelque chose de prévisible, dit-il, c'est l'imprévisible, les accidents, et puis la gestion des déchets, qui s'avère redoutablement durable, les élites techniciennes, je continue son propos, qui ne partagent pas leurs secrets et qui généralisent leur propagande avancent avec certitude qu'on finira par trouver des solutions techniques.
C'est vraiment dans nos sociétés cette idée que c'est ce solutionnisme technique qu'est le danger, c'est-à-dire que nos avions polluent, eh bien, qu'à cela ne tienne, ils vont voler un de ces jours à l'hydrogène. Le climat, le réchauffement climatique, il y a des ingénieurs climatiques via la géo-ingénierie qui vont combiner des techniques d'extraction du CO2, qui vont combiner d'autres techniques pour, mais surtout ne pas changer, ne pas se poser des questions éthiques, des questions politiques sur nos modes de consommation, sur nos modes de vie, sur nos modes de production, sur le sens de nos vies. Hein, c'est toujours des réponses. C'est-à-dire que on va faire dans nos sociétés en sorte que chaque question soit muée, transformée sous la forme d'une question technique qui va être redevable d'une solution technique. Sauf que, une fois que justement cette solution, avec tous les effets d'ailleurs larcènes et tous les effets pervers possibles, c'est-à-dire typiquement les marées noires, on avait voulu justement travailler sur des marées noires avec des détergents qui se sont révélés à l'usage plus nocifs pour la vie aquatique, pour la vie marine, plus dangereuse que le pétrole brut. Eh bien, puis idem pour les fumées toxiques dans l'Europe de l'Est ou en Allemagne avec les pluies acides dans les forêts. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois, de toute façon, il y a une réponse technique, mais qui elle-même va générer aussi un autre problème technique. Donc c'est toujours dans une logique de fuite en avant.
Simple Mind, histoire de réveiller l'indignation d'Ellul qui aurait considéré cette musique comme un écho de l'hypnotisme technicien, une musique conforme au système technicien.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, Jacques Ellul, c'est un auteur de référence pour qui pense que l'humanité doit se poser des limites.
Limites, un mot important qu'explorait déjà avant-guerre avec lui son compère Bernard Charbonneau, qui disait « Dans un monde fini, nos possibilités ne sont pas infini.
Je crois en effet que notre système économique ne peut pas durer indéfiniment. Pour une raison d'ailleurs tout à fait élémentaire, tout est fondé sur la croissance. Et quand on vous dit on a eu une croissance de 1,5, c'est une catastrophe, il faut atteindre la croissance de 2,6. Bien, moi je veux bien. Seulement, une croissance indéfinie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde fini, on ne va pas croître au point de vue économique de façon infinie. Par ailleurs, il me semble que la vie économique moderne est une vie qui est fondée en grande partie sur la production de biens qui ne sont pas indispensables pour l'homme. Ça veut dire que On ne sait pas très bien où on va, mais on y va.
Et ce n'est pas un bulletin de vote. Il n'a jamais beaucoup abusé du bulletin de vote qu'on glisse de temps en temps dans l'urne, qui va permettre de retarder les échéances qu'il faudra payer. On vient d'entendre Jacques Ellul à la fin de sa vie, un texte tardif aussi.
L'écologie n'a rien à gagner à se transformer en parti politique et à se livrer au combat électoral. Le courant écologiste devrait, selon moi, se développer comme un contre-pouvoir, sans entrer dans le jeu politicien. Je rêve toujours, dans une société équilibrée, d'un mouvement motivé idéologiquement, capable de s'opposer, par la masse de ses adhérents, à un pouvoir étatique. Ce n'est pas à partir du système politique que l'on pourra modifier l'orientation de nos industries et l'emprise de la technique sur notre société. La politique ne peut rien résoudre de nos problèmes fondamentaux. Une véritable prise de conscience de ces problèmes implique un changement de vie radical, un renoncement à des facilités et, pourquoi le cacher, un retour à une certaine frugalité. Je ne suis pas sûr que l'ensemble de l'électorat écologiste soit prêt à tous ces sacrifices.
Alors on sent la sensibilité anarchiste de Jacques Ellul. Mais son anarchie dans un mouvement dialectique va toujours de pair avec le christianisme. Oui, parce que avec lui, il faut toujours remonter à la source, à la Bible qu'il commande chaque dimanche pendant le culte qui se tient chez lui. Alors voici un débat d'ailleurs extrêmement actuel. Il est souvent répété aujourd'hui que la Bible ayant fondé un rapport malsain entre l'homme et les autres acteurs vivants, une domination injuste s'est installée. Allons vers le premier livre de la Bible, remontons à la source, la Genèse. Frédéric Rognon.
Oui, alors il lit effectivement les premiers chapitres de la Genèse en y voyant une responsabilité donnée à l'homme de garder le jardin. Donc l'homme a la responsabilité de garder le jardin. Et le terme hébreu qu'on traduit par garder, Jacques Ellul lisait la Bible en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. Le terme hébreu signifie garder avec une application telle que c'est le même mot pour garder les commandements de Dieu. Donc c'est vraiment avoir soin du jardin, avoir soin de la terre. Et au chapitre 1, il est question d'une liberté donnée à l'homme. L'homme a la liberté de jouir de cette terre. Et Jacques Ellul lit les deux textes en dialectique. Liberté et responsabilité, responsabilité et liberté. Ni l'un sans l'autre. Et il considère qu'au cours de l'histoire du christianisme, eh bien, on a un peu laissé de côté l'un des deux pôles, hein, le pôle de la responsabilité, et on a exacerbé la liberté de tout faire sur cette planète. Donc il a déjà une lecture dialectique de la Bible, et une lecture qui est très actuelle, très parlante aujourd'hui dans les débats sur l'écologie, puisqu'il s'agit de tenir les deux pôles de la dialectique, la liberté et la responsabilité ensemble.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit :
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils tiennent dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques et toute la terre, et tout animal qui se meut sur la terre.
Mais ce n'est pas un assujettissement de la nature à l'homme.
Non, parce que bon, là aussi, il faut le lire en hébreu. Le chapitre 1, on l'a traduit « dominer la terre ». C'est un verbe hébreu qu'on peut traduire par « dominer », mais qu'on peut aussi traduire par « prendre soin ». Donc le même verbe peut être traduit de différentes façons, et lui il le traduit en fonction de la tension avec le chapitre 2. Il prend les textes ensemble Et il comprend que ce n'est pas un assujettissement, une domination qui consiste à saccager ou à détruire, puisqu'il s'agit de dominer au sens où Dieu lui-même domine la terre, l'homme étant image de Dieu, donc il doit dominer la terre comme Dieu lui-même la domine, c'est-à-dire dans l'amour, et non pas dans une liberté exacerbée, échevelée, sans aucune responsabilité.
Et si maintenant on allait jusqu'au bout du parcours biblique d'Élul, jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, auquel certains écologistes, et en particulier les collapsologues, se réfèrent assez facilement. Élul a consacré deux forts volumes à l'Apocalypse.
Alors c'est un terme grec qui signifie « révélation ». Et donc, contrairement à l'image qu'on a généralement de l'Apocalypse, qui signifierait catastrophe, fin du monde, il s'agit d'une révélation. Donc, il s'agit d'un message d'espérance. Et Jacques Ellul le lit comme tel. Et alors, il le met en tension avec le premier livre de la Bible, la Genèse. Et donc, entre la Genèse, premier livre, et l'Apocalypse, dernier livre, il y a toute l'histoire biblique qui nous est racontée comme une histoire où les hommes se sont éloignés de Dieu, et ont cherché à se défendre eux-mêmes plutôt que de s'en remettre à Dieu, donc en construisant des villes, en construisant des murailles, etc. Donc, il nous propose tout un parcours de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, à travers le thème de la ville. Et il montre que la ville, c'est une défiance à l'égard de Dieu, puisque l'homme construit des villes pour se défendre au lieu de s'en remettre à Dieu. Et bien, à la fin des temps, ce que nous annonce l'Apocalypse, c'est que il n'y aura pas de retour à l'origine, comme dans beaucoup de religions. Mais ce qui est annoncé, c'est une ville, c'est la Jérusalem céleste. Et Jacques Ellul le lit de la manière suivante, le Dieu biblique est un Dieu de liberté, qui laisse à l'homme la liberté, y compris la liberté de s'éloigner de lui, de se méfier de lui, ou de construire des choses contre lui. Mais à la fin des temps, ce Dieu de liberté assume l'histoire de l'homme. Au lieu de le ramener au jardin, qui était le milieu qu'il avait choisi pour lui, eh bien, il assume le fait que l'homme a préféré construire des villes. Et il y aura donc une ville qui sera proposée à l'homme à la fin des temps. Simplement, la différence avec toutes les villes que l'homme a construites au cours de l'histoire, c'est que ça sera une ville dans laquelle Dieu sera pleinement présent, au lieu d'être une ville dont Dieu est exclu, comme c'est le cas de toutes les villes de l'histoire de l'homme.
Donc je ne veux pas vous ramener sur le terrain de l'actualité, mais enfin tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la collapsologie telle que on la diffuse aujourd'hui.
Alors la grande différence, me semble-t-il, entre l'œuvre de Jacques Ellul et la collapsologie, même si on peut trouver des affinités sur la mise en garde contre les dérives catastrophiques de notre temps. Mais la grande différence, je pense que c'est l'espérance. Il me semble que ce qui manque cruellement à la collapsologie, c'est cette dimension d'espérance. Pour Jacques Ellul, l'espérance, c'est le contraire de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, hein, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espérance. C'est-à-dire, c'est quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de perspective à vue humaine, qu'alors surgit l'espérance qui est la confiance en la présence de Dieu à travers ces catastrophes. Non pas pour les éliminer, mais pour les traverser et pour être à nos côtés, pour nous aider à les traverser.
Eh bien, comprenne qui pourra, là où est le péril, croit ceux qui sauvent. Et une fois fermées les fausses issues des faux espoirs, demeure l'espérance. Je peux en tout cas vous confier que l'espérance, c'est le contraire de l'information. Une fois rassemblées toutes ces réflexions, les Éluliens ne songe pas à être légion. Mais ils commencent cependant à être nombreux. Ils se retrouvent dans des lieux, des maisons d'édition, des revues, dont les titres constituent déjà tout un programme. L'échappée, le pas de côté, limite, la lenteur. Frédéric Rognon, enfin.
On trouve des Éluliens de toutes sortes. Sur le plan politique, effectivement, on en trouve depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et en passant par les écologistes, bien entendu, et puis les anarchistes et les socialistes et les gens du centre et de droite. Sur le plan spirituel ou confessionnel, on trouve des catholiques, des protestants, des juifs, des non-croyants, des agnostiques, des athées. Et parmi les protestants, on en trouve de toutes sortes, hein, de toute église ou de toute tendance théologique. Sur le plan socio-économique, on trouve des personnes dans tous les milieux. On trouve bien entendu des enseignants-chercheurs, hein, des universitaires. Mais j'ai trouvé par exemple un banquier, j'ai trouvé également un préfet, donc ça c'était plus inattendu, un agriculteur, voilà, donc des personnes qui ont rencontré la pensée d'Ellul et ça a changé leur vie, alors même qu'ils n'étaient pas forcément préparés à la rencontrer.
Donc on pense en particulier au nouveau maire de Bordeaux.
Par exemple, oui. Je l'ai interviewé longuement et il m'a dit, j'ai été étudiant de Jacques Ellul, donc c'est Pierre Urmic, hein, le maire de Bordeaux, j'ai été étudiant à Sciences Po, Jacques Ellul nous disait de pas faire de politique, ben moi c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique, mais je vais la faire autrement. Et sur son bureau de maire, quand je l'ai rencontré, il avait sur son bureau de maire, au-dessus de son bureau, il avait la photo de Jacques Ellul, et sur son bureau même, il avait le livre « L'illusion politique » de Jacques Ellul, et il me dit « ça, c'est ça qui me permet d'être toujours vigilant vis-à-vis de toutes les tentations qui sont les miennes en tant que maire ».
Mais attention, monsieur le maire, il y a une illusion politique, une illusion de l'action politique. En revanche, ajoute Ellul, il y a une illusion de l'action purement cérébrale qui serait celle de l'intellectuel, qui s'offre en spectacle aux médias et met en avant son audace. Il réfléchit. Partout, il faut, à côté de la liberté et de la responsabilité, le doute. Merci à Patrick Chastenet qui anime l'association des Amis de Jacques Ellul et qui publie une introduction à Jacques Ellul aux éditions de La Découverte. Merci à Frédéric Rognon chez Labor et Fides, un livre sur Jacques Ellul, et aux éditions Olivetan, un livre sur Ellul et Charbonneau. Les lectures, Grégoire Roqueplot, à la technique Yves Lehors et à la Maison de la Radio et de la Musique, Adèle Caglar. Les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation Audrey Ripouille.